Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de mon père, qui aujourd'hui a mis son très beau gilet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais dans l'armée napoléonienne, les soldats qui venaient à l'époque de la campagne ne connaissaient pas tous le mot droite et gauche. Donc, dans les sabots, il y avait un côté où on mettait de la paille, un côté où on mettait du foin, et on disait paille, foin, paille, foin.
Pour faire là, marcher au pas, oui.
Pour faire marcher au pas. Et là, on a rouge, quand tu veux dire la droite. Et beige, quand tu veux dire la gauche,
voilà. C'est pratique. Alors on va dire, tourne rouge. Alors, hop, hop.
Paille, paille, paille.
Mais par contre, on me dirait de reconnaître la paille et du foin, j'y arriverais pas moi, mais enfin...
Surtout au pied.
Surtout au pied, non mais je veux dire, les paysans, ils savaient ce que la différence entre la
oui,
paille et le foin, mais
moi... Oui,
mais
toucher, tu peux savoir si c'est de la paille ou du foin avec ta plante de pied.
Je sais pas.
Enfin, j'imagine que tu dois te souvenir, c'était de ce côté-là
histoire.
Où on avait mis la paille.
Oui, mais non, mais moi, aujourd'hui, tu dirais à 90% de la population française, paille, foin, paille, foin... Il ne saurait pas de quel
ouais,
point marcher.
Je ne suis pas très sûre. Mais écoute, c'est bien que tu parles 90% de la population, parce que justement, aujourd'hui, nous allons faire une petite émission, oui, parce que je prends toujours Charles de Cour, sur la véritable différence entre les générations.
Oui.
Donc aujourd'hui est une petite émission, comme nous en faisons parfois, de sociologie de génération. Et on va essayer, à partir d'un livre que j'ai lu le week-end dernier, qui s'appelle « Génération », justement, de Jean M. Twenge, qui est PhD, qui est américain. Je ne crois pas que le livre ait été traduit en français. Je l'ai moi-même téléchargé depuis Amazon et j'ai dû le lire depuis mon ordinateur, chose que je n'aime pas faire, mais je l'ai fait quand même. Et c'est assez intéressant parce que vous avez dû entendre très souvent justement les références qui sont faites aux générations X, aux générations Y, ce qu'on appelle les boomers. Voilà. Et je t'ai accusé à tort la semaine dernière d'être un boomer. Or, tu es ce qu'on appelle un silent, c'est-à-dire un silencieux de la génération des silencieux. Et nous allons définir tout ça.
Pour un silencieux, je parle beaucoup.
Et effectivement, si tu réfléchis, il existe dans la baie du Bengale, entre l'Inde et le Myanmar, une île qui s'appelle Sentinelle Nord et qui est une île approximativement de la taille de Manhattan. C'est le berceau d'une tribu qui vit encore complètement en dehors du monde.
Ah oui,
en
on a
dehors
pas
de
le
la
aller
civilisation.
Voir, il vous tape dessus si tu vas aller voir. C'est
si tu vas les voir, il te tape dessus.
Il te tue, oui.
Il te tue. Et si tu veux, c'est drôle quand tu penses à cette civilisation qui est encore en dehors de tout, c'est que.
L'âge de pierre, oui.
Eux. A priori, il n'y aura pas de différence entre une première génération, une deuxième génération, une troisième génération. Tu vivras comme ta mère vivait et comme ta grand-mère vivait avant elle, et ainsi de suite. Alors que la vraie rupture qu'on connaît aujourd'hui, justement, avec l'avancée des technologies, c'est que, alors que j'imagine qu'un paysan du XIIIe siècle vivait relativement pareil qu'un paysan du XVIe siècle, aujourd'hui, on peut se dire que d'une génération à l'autre, déjà simplement en 25 ans, 20 ans même pas, on a des cycles de vie complètement différents et des approches de vie aussi
ben
très
oui,
différentes.
Ma grand-mère, elle avait vu arriver elle avait vu arriver l'électricité, elle avait vu arriver les avions, elle avait vu arriver les voitures. Et donc, entre sa génération et la génération d'avant, la seule chose qui existait un peu, c'était les trains. Mais donc, en une vie, tout avait changé. Déjà,
mais regarde ta mère, elle a vu arriver... la radio, la télévision, les machines à laver,
C'était d'ailleurs, on allait au salon des arts ménagers à Paris, qui était un grand moment parce qu'on voyait des tas de machines pour aider
tourner,
vachement bien ce truc.
Mais c'est-à-dire que avant, quand tu faisais laver tes draps, tu t'y mettais toutes les femmes ensemble, c'était.
Et il n'y avait que deux lavages par an. Hein.
Voilà. Et c'était l'activité pareil pour les cheveux, tu les lavais une fois par mois, ça prenait la journée.
Ah bon, c'est aussi souvent que ça? Ah bon, je sais pas.
Ouais, oui, mais ça prenait du temps à sécher quand même. Et c'est vrai que si tu réfléchis, si aujourd'hui un voyageur des années 50 arrivait, il se dirait, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de mariage entre le même sexe? C'est quoi cette histoire de contraception? Et je pense qu'il s'évanouirait à la vue d'un téléphone portable et des informations pornographiques ou ainsi de suite que tu peux trouver.
Mais même
dessus.
Des informations que tu puisses téléphoner à ta mère à l'autre bout du monde, je sais pas quoi. Et que tu,
avec FaceTime sans payer.
Et que tu ne payes rien et que vous parliez en vous regardant. Moi, quand j'étais aux États-Unis faisant mes études, on n'avait pas un rond, et j'écrivais à mes parents sur une feuille qui était spécialisée.
Toute fine.
Toute fine, fine, bleu ciel. Et on écrivait, et puis on envoyait ça, et puis on se téléphonait jamais, parce que téléphoner des États-Unis en France à l'époque, ça devait me coûter un mois de salaire, ou je sais pas quoi. Donc
mais déjà, quand on rentrait en voiture depuis le sud-ouest, pour... On avait un code.
On
faisait sonner trois fois le téléphone et on raccrochait.
On disait, non, c'est bon, ça veut dire qu'on est bien arrivé. Comme ça, on n'avait pas payé la communication. Non, mais les gens ne s'imaginent pas, c'était quand même des temps héroïques.
Alors, reprenons les catégories. Les silencieux, silence en anglais, c'est la génération 1925-1945. Ensuite, on va voir les boomers, c'est les 45-64.
Oui, ça n'a rien à voir.
Ensuite, génération X, 65-79. Les millennials, 1980-1994. Génération Z, iGen ou zoomers, on les appelle, 95-2012. Et ce né après 2013... On est sur des appellations qui pourraient être les polars ou les alphas.
2013, mais attends, ils auraient 10-12 ans aujourd'hui, ils sont déjà différenciés.
Ils sont déjà différenciés puisque c'est la génération d'après et on peut, ils auront vécu le confinement et on a déjà des statistiques sur ce groupe d'âge.
Ah oui.
Alors, qu'est-ce qui amène une génération à changer ? Alors, la théorie classique se concentre sur l'œuvre de Karl Mannheim, qui date de 1920, qui est qu'une génération en général s'agrège autour d'expériences reconnues communes par le groupe. Mm-hmm. Dans les années 70, le sociologue Glenn Elder a trouvé que les personnes qui avaient connu la Grande Dépression comme enfants avaient une expérience très différente de ceux qu'ils avaient connus en tant qu'adultes. Donc, ta réaction, la façon dont tu vas gérer cette émotion, ce stress, va te forger un mental qui va faire de toi une catégorie dans un groupe.
Tu sentiras les mêmes choses que les gens de ton âge.
Que les gens de ton âge. La guerre du Vietnam, par exemple, pour les boomers, a été un facteur de... Voilà, la peur de l'ogive pour la génération X, la mienne. Septembre 11, le 11 septembre pour les millennials et l'épidémie de Covid pour la génération Z. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses agrègent la tienne de génération? Peut-être l'arrivée de la pilule, parce que toi, tu es à la toute limite.
L'arrivée de la pilule, ça a été un changement absolument inouï. Mais c'est arrivé assez lentement aussi, que ça paraisse. Ça a mis du temps, parce qu'au début, les pilules n'étaient pas au point, etc. Oui,
c'était les premières générations, elles faisaient tomber les cheveux. On a fait des chutes hormonales, pas possible. Les dents qui poussent, enfin,
C'était vraiment. Donc, moi, je veux dire. Pour moi. J'ai fait partie d'une génération que j'appellerais le rétrécissement de la France. C'est-à-dire que quand jusqu'à 45, mettons, y avait tout cet immense empire qui était là, colonial et tout. Et il y avait quand même beaucoup de Français qui étaient dedans, qui étaient là, qui travaillaient, etc. Énormément. Et en l'espace de 10-15 ans, mettons de 45 à 15 ans, ou 58, ou j'en sais rien, tous ces Français sont, ou une grosse partie, sont rentrés au pays. Donc la France, qui était qui avait un empire, qui était quelque chose d'immense, elle a toujours, je crois d'ailleurs, le deuxième domaine marin au monde, la France, est devenue d'un seul coup une petite province de l'Europe, quoi. Et je crois que ma génération, c'est encore ceux qui portaient en eux une très grande France. Et puis
Une certaine idée de la France.
Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des gars qui t'expliquent que c'est guère plus qu'une petite province de l'Europe. Et j'ai envie de leur dire, mais oh les gars, ça va pas.
Oui, et c'est drôle parce que...
Pour moi, c'est vraiment un truc très important, c'est la taille de la France.
Les gens, de temps en temps, parlent de la francophonie, mais ils ne se rendent pas compte, effectivement, il y avait une francophonie. Au Liban, les gens parlaient français jusqu'en Roumanie.
Et les classes éduquées parlaient français partout.
Mais bien sûr, en Russie,
tout le monde parlait français. Quand on était en Grèce avec mes parents, mon père était observateur des Nations Unies pendant la guerre civile en Grèce, donc on a vécu là-bas 3-4 ans, c'était vachement bien. J'ai pas été à l'école pendant 4 ans, c'était le pied. Et qu'est-ce qu'il y avait de bien là, si vous voulez, c'est que les Grecs, ils parlaient tous plusieurs langues, mais les Grecs, bien élevés, etc., parlaient français entre eux, parce que c'était considéré comme au 18e, comme étant la langue quand même qui permettait d'exprimer des sentiments un peu raffinés. Il y avait un empereur d'Autriche qui disait... Quand je veux parler à
mes chevaux, je parle allemand. Quand je
veux parler à une femme, je parle italien. Et quand je veux parler intelligemment, je parle français. Ouais, c'était un truc comme ça, quoi. Donc il y avait quand même cette espèce de... Donc on était quelque chose, une espèce de lumière dans les ténèbres, à l'aide de civilisation et tout. Et en l'espace de 10 ans, on m'a expliqué que,
Mais il est certain que l'anglais était la langue du commerce, parce que c'est une langue facile, et le français était la langue de la diplomatie et la langue de la poésie.
C'est pour ça que tu peux expliquer des idées de façon très fine.
Voilà, et je, d'ailleurs, dans l'entretien où vous parliez avec Xavier Roffer et Hervé Juvin, des diplomates chinois apprennent encore des poèmes en français.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va connaître Verlaine, on va connaître Baudelaire, parce que ce raffinement dans la poésie, ou même dans le théâtre, dans Musset. Musset, c'est
merveilleux.
C'est merveilleux, c'est à pleurer.
C'est merveilleux, c'est...
Et j'adore le théâtre, mais je ne trouve pas même si j'adore Shakespeare, il n'y a pas la même sensibilité et la même profondeur qu'on peut trouver dans le théâtre ou la poésie française. Voilà.
Donc, pour moi, ça a été, nous, on a été la génération. Si je devais revenir un peu, je me dirais, bon, il y a eu la génération des gens de 14-18 qui ont été massacrés et tout, mais qui ont gagné. Tu vois, la génération de mon père, ça a été ceux qui ont été massacrés. Il avait fait Saint-Cyr, officier, il n'est pas mort. Enfin, tous ses camarades de promotion ont été tués.
Il était avec Massu, d'après lui, était le plus con de la promo.
Oui, oui. Il était
très, très long, voilà.
C'était un peu
venir ce con de Massu, il a fait rire. Il a survécu.
C'est ce que il y avait Massu, De Gaulle qui disait à Massu, alors Massu, toujours aussi con. Et Massu répondait, oui, mon général, toujours gaulliste. C'était quand même très bien, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'on a eu la génération de nos parents, enfin de mon père, a été celle qui a été vaincue. Et je crois que pour un garçon, mon père a résisté, donc le Dieu, lui, il n'a pas été parmi les vaincus. Mais je crois qu'une grande, une grande part de ceux de ma génération, mais sont les trichés, etc., ont vu les Allemands en France et ils n'en sont jamais remis. Donc je crois qu'une grosse partie de la faiblesse du personnel politique en France, c'est qu'ils ont eu l'impression que leur père avait été vaincu et qu'il fallait... Et voilà. Il fallait vendre du beurre aux Allemands. Voilà, c'est ça. Que dans le fond... Et donc, il serait intéressant de faire une étude, d'ailleurs, sur les fils de ceux qui ont continué à combattre, comme mon père, et les fils de ceux dont les parents se sont couchés. Quoi, pour voir
Soros,
il a collaboré activement, lui. Donc, vraiment, si vous voulez, pour moi, la génération que tu appelles les silencieux, en France, en tout cas, ce que tu appelles les silencieux, c'est la génération de ceux qui ont vu la guerre passer en silence, en regardant leur père, et ça a dû être vrai aussi en Angleterre, mais en Angleterre, les pères avaient gagné. Donc, je veux dire, il y a quelque chose là qui est assez troublant.
Dans la construction psychologique.
Oui. Peut-être des garçons, je ne sais pas.
Alors, une autre chose, en tout cas, qui est révélatrice dans la construction d'une génération, c'est l'accès à la technologie. Et quand on parle d'accès à la technologie, ça doit être défini beaucoup plus largement que simplement l'iPhone ou ainsi de suite. C'est aussi les révolutions, quelque part, schumpeteriennes. Tu parlais tout à l'heure de l'électricité, de l'arrivée
des
machines.
Alors, ma génération,
on n'a
pas
suite.
Eu tellement. On a vu... C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu l'amélioration, l'accès de beaucoup de gens à une technologie qui existait depuis longtemps. Tu avais, par exemple, les voitures. Mm-hmm. Donc, il y avait des gens qui avaient des voitures, mais toi, t'en avais pas parce que bon, ça coûtait cher une voiture. Et puis, petit à petit, il y avait l'ensemble de la population accéder à la technologie, mais qui n'étaient pas des technologies dont ils servaient eux. C'est-à-dire, ils n'avaient pas à intervenir dans la technologie. Tout ce que tu devais faire avec la voiture, c'est la conduire, quoi. Tu vois, ouais. C'était pas très difficile, mais personne ne savait comment marcher un moteur à explosion. Faut pas déconner. Et donc, le bouleversement de la technologie, c'est arrivé à partir des PC. Mmh. C'est-à-dire, il y a assez peu de temps. C'est il y a 20 ans, quoi, 25 ans. Parce qu'avant ça, la technologie, c'était la chasse gardée de gars qui savaient comment tourner un ordinateur. Oui. Voilà. Donc, la technologie que tu portes sur toi, c'est il y a 25 ans, en tout cas, c'est...
Alors, si on reprend ta génération, donc la génération silencieuse qui est 1925-1945, suivant les statistiques, la fin de cette génération, donc la fin de 45, ce fut la première à avoir des mères qui ont commencé à travailler. En 59, aux USA, tu avais 40% des femmes en âge d'avoir des enfants qui travaillaient contre 28% 10 ans avant. Donc, il y a quand même un changement qui s'opère.
Et si c'est parce que la guerre a forcé les femmes à travailler.
Aussi.
Parce que dans la dépression, si eux, comme ils n'avaient pas de boulot, c'était plutôt les hommes qui allaient bosser. Quoi.
Alors, le divorce commence à augmenter aussi, une hausse spectaculaire. Mais l'éducation supérieure progresse aussi dans cette génération.
Oui, il y a eu, c'était le grand développement de le. C'est le moment où, à la place d'avoir 4-5% de gens qui aillent à l'université, d'un seul coup, il y en aura 20-25%
qui ça continue évidemment avec les boomers.
Voilà.
Et alors, une chose qu'on constate sur la génération des silencieux, donc tu fais partie, c'est une génération qui est considérée comme beaucoup moins cynique que celle des boomers, beaucoup plus enclin à croire en autrui et avoir le bien en autrui, alors que les boomers qui arrivent après vous vont développer un côté beaucoup plus cynique.
On n'aura pas sur les 1925-45. Ils sont complètement égoïstes.
Les boomers. Bien sûr, c'est ce que voilà.
Moi, pour moi, alors là, j'ai la caractéristique des gens qui sont arrivés à partir de donc qui ont 50 plus que moi, ou 10 ans, ou de moins que moi, ou. C'est que c'est moi et les petits oiseaux, quoi. C'est
voilà,
tout à fait.
Les boomers restent marqués par un individualisme forcené, le rejet des contraintes et des normes antérieures, et l'affirmation centrale que le choix personnel doit primer. Donc c'est vraiment moi, myself and I, et c'est très tous les Gen Fonda, tous les Vietnam War, tous les My Body My Choice. Donc il y a pas une connerie que les boomers dans laquelle ils ne sont pas rentrés à pieds joints.
C'est toujours ce que j'ai dit. Cette génération que tu appelles les boomers, c'est la plus con de l'histoire de France. Parce qu'ils ont détruit en l'espace d'une génération, par leur choix politique, par leur choix de vie, par leur choix moraux, etc., ils ont détruit le travail des 40 générations précédentes. Quoi. Pour moi, je voulais écrire un livre, mais j'ai eu la flemme parce que je suis paresseux, mais qui était écrire l'histoire de la génération la plus con de l'histoire de France. Quoi. Et c'est les boomers.
Alors, ils sont les premiers aussi à avoir eu la transmission d'informations massives, puisque...
Confondre l'information et la connaissance.
Oui, c'est vrai.
Ça c'est vraiment, pour moi, confondre l'information et la connaissance, c'est vraiment la caractéristique des boomers.
Et ils sont aussi les premiers, grâce à la technologie, à avoir du temps pour soi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as une machine à laver, ainsi de suite, on en parlait tout à l'heure, ça te laisse plus de temps pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que aussi, quand tu mettais énormément de temps à aller trouver des produits pour faire tes courses, que maintenant tu as des grandes centrales d'achat et ainsi de suite, le temps passé pour faire les choses du quotidien s'est diminué énormément, laissant du temps libre pour
faire des conneries.
Pour faire du sport, de la sexualité, ce que tu veux. Et on a aussi un développement à partir des années 66-68 des spiritualités alternatives, donc une baisse de la religion. Bah on commence à avoir les rayons de développement personnel.
Oui, c'est terrifiant. Non, mais c'est ce que disait ce philosophe anglais. Il disait à partir du moment où les gens ne croiront plus en Dieu, c'est.
Chesterton,
oui. C'est pas qu'ils croiront. En rien, c'est qu'ils croiront en n'importe quoi. Et on a vu un nombre de n'importe quoi arriver absolument extraordinaire. Et en effet, vous avez des tas de gens qui se mettent à croire dans des billevesées, mais qui sont mais avec beaucoup de sérieux. Et alors, si je devais dire la caractéristique de la génération des boomers, là, c'est qu'elle a aucun sens de l'humour. Ils se moquent jamais d'eux-mêmes.
Mais c'est pour ça.
Ils sont très lointains.
Voilà.
Je vous dis, mais tu te prends pour qui, là? Enfin, pfff.
Mais c'est
grosse fatigue.
Un petit peu Alain Minc, tous les Duhamel, tous ces gens-là qu'on a vus toute notre enfance et qui sont tellement dénués de capacité à rire de soi.
À se moquer
de
toi.
À prendre du recul et à se dire, je fais une boulette ou j'en sais rien, mais c'est incroyable.
Donc, la caractéristique des boomers, c'est qu'ils sont très intéressés par eux-mêmes et qu'ils n'ont aucun sens de l'humour.
Pour moi, il y a autre chose aussi qui a été très fort dans cette génération, puisque je parle de Duhamel, ça a été une espèce de surcapture de la sexualité. C'est-à-dire que tout à coup, on a eu toute cette génération qui se tournait vers la mienne ou vers d'autres en disant « Ah mais comment ça ? Mais à 13 ans, tu n'as pas encore couché. À 14 ans, tu n'as pas encore couché. » Ils étaient complètement obnubilés par le fait d'avoir des rapports sexuels. Et qu'il fallait absolument libérer la bonne parole. Et alors évidemment, on l'a vu maintenant aujourd'hui qu'on se retourne un peu vers ça, rien n'était interdit. C'est-à-dire un homme de 40 ans avec une petite fille de 13 ans, aucun problème.
Une femme de 35 ans avec un petit garçon de 14, aucun problème.
Aucun problème. c'était normal parce qu'on devait être dans une sexualité ouverte, une sexualité de plaisir, un partage. Et tu étais limite coincé si tu avais une vision un peu catho ou quoi, de dire non, moi si ça vous fait rien, je préférais pas me mélanger à autrui. Déjà qu'à deux, c'est dégueulasse. Non, il fallait être.
C'est-à-dire cette espèce d'obsession de la sexualité. Moi, je raconte toujours cette histoire, mais parce qu'elle m'amuse beaucoup, c'est que ton oncle, qui s'appelait Jean-Louis Serin, qui était professeur de droit à Bordeaux, avait comme maître Raymond Aron, donc Raymond Aron l'aimait bien. Et un jour, Raymond Aron lui demande, Jean-Louis, est-ce que vous aimez les femmes? Et Jean-Louis dit, oh, oui, j'aime beaucoup les femmes.
Il aimait beaucoup
les femmes, qui lui rendaient bien d'ailleurs. Et Raymond Aron lui dit, vous n'arriverez à rien. Et cette phrase est terrible, parce qu'en effet, c'est un grand intellectuel, l'effort d'une vie, etc. Si vous passez votre temps à débiter des bêtises et à courir après des jeunesses, vous arrivez à rien. Une œuvre, ça se construit dans une vie d'assaise, de travail, de réflexion, de solitude. C'est tout le contraire de ce que voulaient les boomers. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a plus un seul grand intellectuel. Mmh. C'est parce que ils ont trop aimé les femmes, tous.
Alors, il y a aussi donc un shift, un changement des perceptions. Par exemple, si tu étais fille mère avant 1960,
tu étais
considérée comme folle pour 3 adultes sur 4. Et en 78, tu n'es considérée plus folle que par 1 sur 4. Donc, il y a quand même une évolution.
Et maintenant,
dans les...
on arrive dans la société, par exemple, des Noirs américains, là, des Afro-américains, où 70% des enfants naissent hors du mariage, alors que c'était 6% avant qu'on...
À cause des aides aux mères célibataires.
Aux mères célibataires. Donc à partir du moment où on paye les mères pour avoir des enfants sans père, eh ben, elles en font sans père. Et on sait que c'est la plus grosse... Donc c'est aussi un truc...
Le manque de père et de référence maternelle est la plus grosse cause de criminalité.
Donc ça veut dire que probablement chez ces boomers aussi, il y a eu l'effacement progressif et programmé de l'homme, c'est-à-dire cette montée en puissance de la femme revendiquant son autonomie. Mais je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais je dis que c'est un fait, quoi. C'est que l'homme est passé au second plan.
Et du reste, le déclin aux USA de la natalité par un tiers commence en 71, et après, donc ça tombe en 71, puis ça fait un plateau.
Ça fait un plateau, mais maintenant c'est en train de tomber.
Et c'est encore en train de retomber.
C'est en train de tomber, et partout.
Ça a fait comme ça.
C'est-à-dire que heureusement, la fécondité, on en a parlé ici d'ailleurs.
La natalité, parce que la fécondité, c'est encore autre chose.
Mais la fécondité des femmes, dont on a parlé ici, c'est... Ça a l'air de baisser par plateau. On est passé de 2,6, qui était aucun problème pour replacer les générations, à 1,8. Et là, on s'est dit, c'est pas terrible, mais enfin, ça devrait aller. Puis on est en train d'arriver à 1,4 ou 1,2. Et puis il y a même le Corée qui est en train de passer en dessous de 1. C'est-à-dire que les femmes ne se remplacent même plus elles-mêmes. Donc, on pensait tous que justement donner le pouvoir aux femmes de choisir leurs enfants, combien elles en voulaient et tout... Et on découvre avec stupéfaction qu'il y a quand même un paquet de femmes dont le but est de ne pas avoir d'enfants.
Alors, on en a déjà parlé, mais c'est pas...
Je sais pas quel... Bon, en tout cas, c'est le résultat quand la société arrive.
Non, en réalité, ce qui se passe, et on l'a dit ici, c'est que... Et on le lit dans ces bouquins-là, c'est que les nouvelles générations s'imaginent, parce qu'on leur a expliqué, qu'elles peuvent avoir un développement long. Un temps long de développement.
Ce qui existe pour les garçons, mais pas pour les filles.
Ce qui existe pour les garçons, mais pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le slow development dans ces idées-là. Sauf que quand tu es une femme, tu as une horloge biologique et qu'il faut arrêter de dire aux femmes que vous pourrez avoir des enfants jusqu'à 45 ans. Pas du tout. Si tu n'as pas été primi par, si tu n'as pas eu ton premier avant 35, bonne chance. Et quand je te dis 35, c'est que 35, tu dois avoir ton partenaire et lancer la chose et déjà tu es en retard. Parce que si jamais tu as un peu des problèmes à concevoir, ça te met 2 ans, que tu dois commencer à faire des fives, des machins, en fait ça t'amène à 37.
On voit que
et tes œufs descendent en fertilité tous les
temps.
Ans.
C'est-à-dire, et les spermes du mec aussi. Et donc on se rend bien compte.
Si il faut vraiment tenter d'avoir le premier avant 30 ans si vous voulez une famille. Et ça veut dire donc que dès l'âge de 22 ans, 23 ans, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que ce mec-là peut être un potentiel partenaire de vie? Sinon, c'est pas la peine. Sinon, vous pouvez décider. Mais, et c'est pour ça, quand tu dis les femmes décident, non. C'est justement parce qu'elles n'ont pas fait cette décision en amont, parce qu'on leur a pas dit qu'il fallait faire cette décision,
que
le temps passe. Et après, c'est trop tard. Elles se retournent en disant, qu'est-ce que j'ai foutu?
Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a aujourd'hui 50% des femmes aux États-Unis qui ont plus de 30 ans et qui sont pas mariées. Et ce qui veut dire que... Il y en aura probablement la moitié de celles-là, c'est-à-dire quasiment 25% des femmes qui vont terminer toutes seules, quoi. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est qu'on a, en disant que l'homme et la femme, c'est pareil, c'est pas vrai. Un homme, il peut, comme disait mon cher père, si un homme de 60 ans, une femme très jeune, il a parfois des enfants, un homme de 80, il en a toujours.
Donc, il n'y a qu'à voir Mick Jagger.
Donc, Mick Jagger, mais il fait des enfants comme... Ouais. Donc, c'est une blague, mais c'est-à-dire que l'homme reste fertile Et la femme, ben, si elle a, mettons, il y a une fenêtre de 16 à 40 ans, 24 ans, ce qui fait aller peut-être un quart de sa vie. Il y a un quart de sa vie pendant laquelle elle est fertile et les trois quarts pendant laquelle elle l'est pas.
Donc il faut arrêter de dire, oui, vous pouvez vous développer.
Vous avez le temps.
Ça n'est absolument pas vrai. Donc, encore une fois, il est important pour une femme, je pense, de prendre en compte ça dès le début et d'arranger ta vie en fonction.
Bien sûr.
Et véritablement aussi de réfléchir en partenaire de vie. Déjà pour moi, la première chose, c'est que quand tu couches avec un homme, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que si potentiellement, par un accident, je devais avoir un enfant avec lui, ça serait un drame ou pas ?
Oui.
Si ta réponse est oui, ça serait un drame, pourquoi tu couches avec lui en fait ? Tu vois, il faut que potentiellement, s'il y a un truc qui va pas...
Tu te dis, tu pourrais le filer au gamin.
Non, mais et puis surtout, tu te dis, ben, l'enfant serait pas... Parce qu'il faut pas que tu te dises, mais en plus, je vais faire un enfant avec un débile.
Voilà. Ok, il est beau garçon, mais enfin, il est un peu
couillon. Bon, au moins, s'il est beau garçon, c'est déjà ça. Mais enfin, si
ce
genre de traîner des enfants débiles pendant 18 ans avec tous les conseils de classe, c'est pas une bonne idée. Hein.
Le professeur qui dit oui, vous savez...
Il est gentil.
C'est ce qu'on disait à mes parents quand j'étais dans l'école de Jésus.
On lui fera faire de la menuiserie.
Non.
De l'ébénisterie, tu parles, tu serais coupé un doigt.
Vous savez, ils sont pas très doués, mais ils font Saint-Cyr. Ma mère, dont le mari avait fait Saint-Cyr, était grisée. Vous savez, les jésuites, c'est pas des... Il disait à ma mère, on peut pas transformer un âne
en
cheval de course. C'était de nous dont il parlait, donc ma mère était en
cheval. Tu dis nous, parce que Charles a un frère qui a 15 mois d'écart, ce qu'on appelle des jumeaux irlandais.
Jumeaux irlandais, mais on s'est redoublés, on a retrouvé, je le retrouvais toujours. On a terminé ensemble d'ailleurs. Il était parti 15 mois avant moi, mais on s'est terminé ensemble.
Et par un prompt renfort.
Mais pff, dans quel état ?
Au second bachot.
Il y avait deux bacs à l'époque.
Bah oui, donc à ton second bachot à 23 ans, je déconne.
Bah 20 ans.
Le bac était plus dur. Bon, on arrive sur la génération X, qui est les 65-79. Donc 1965-1966, c'est moi, c'est ma génération.
C'est toi, c'est ton frère, oui.
Voilà. Et c'est drôle parce que d'ailleurs, quand je regarde mes frères et sœurs, je vois vraiment la différence, moi, génération X, et Edouard, qui est la génération d'après, tu vas voir. Donc, les 1965-79, tout à coup, c'est au milieu des années 90, les sociologues se sont dit, tiens, c'est bizarre, il y a toute une nouvelle génération qui arrive habillée en noir, qui n'a pas du tout les mêmes revendications que les boomers d'avant, et qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations. Ils sont beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes, pas du tout politisés.
Et, oui, ça c'est nouveau, ça, oui.
Et qui... connaissez tous Star Wars. Le truc de ma génération, c'est qu'on connaît tous Star Wars et c'est une espèce de moment définitif pour cette génération.
Et
aussi.
Le Seigneur des Anneaux. Parce
oui,
que...
oui, le Seigneur des Anneaux aussi pour les garçons. Les filles un peu moins en France, enfin en Europe, mais c'est vrai que ça fait partie...
De ces grandes sagas.
Et aussi, par exemple, en France, on va être un peu la génération Casimir ou Club Dorothée. C'est-à-dire, on a grandi avec ça. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi avec des télévisions dans nos foyers allumées. Et on l'avait tous, la télévision.
Et elle était en couleur.
Donc on a tous suivi les mêmes émissions. C'est-à-dire que quand on a des références à ça ou au Club Dorothée ou des choses comme ça, on a tous vécu la même enfance au travers de la télévision. Donc voilà. Alors, il y avait une génération qui avait Woodstock, qui avait... Et alors, nous, notre génération, c'était un peu la génération d'après, après le Vietnam, après Woodstock. Et on a grandi aussi dans l'idée de la guerre froide. Mais on est un peu la génération du milieu. On est entre deux générations, avant la génération les boomers et puis celle qui va arriver. Et nous, notre génération, c'était MTV. Voilà, c'était. Et c'est assez drôle parce que c'est comme ça que YouTube a été inventé. Si on regarde, c'était un génération X qui voulait re-regarder la séance du Super Bowl où Janet Jackson dansait avec Justin Timberlake. Et on a vu son sein. Et le gars voulait le revoir. Mm-hmm. Et il le trouvait pas sur Internet. Et il a dit, mais enfin, c'est quand même dingue qu'on n'ait pas une plateforme pour mettre des extraits intéressants. Comme celui-là. Et donc, a débouté YouTube sur son impulsion, où au début, bah, y avait les premières vidéos où les enfants léchaient le dentiste et avaient trop de doses d'oxygène, des pandas faisaient les idiots, et puis des gorilles conduisaient des petites voitures, tu vois.
Pas des gorilles, ils en sont bien incapables. C'est un orang-outan.
C'est un orang-outan.
Et une femelle en
c'est
plus.
C'est une femelle orang-outan. Il faut savoir que Charles aime beaucoup cette femelle orang-outan qui conduit une mini
voiture de golf, oui.
Elle a conduit très bien.
Elle a conduit très bien. Mais tous les autres orang-outans s'en vont faire l'imbécile, à essayer de monter sur le toit et tout, et elle conduit très sagement. Donc, ouais. Voilà. On voit que c'est une femme.
Elle a une mission chez le machin. Voilà. Et c'est des enfants, bon, ce sont la première génération qui sont des enfants du divorce. Et c'est aussi drôle parce que on était aussi des enfants sans surveillance. C'est-à-dire que moi, je me souviens enfant, maman avait aucun problème à dire bah, je pars 2 heures, les enfants, vous vous gardez. Chose qui n'arriverait plus du tout maintenant. On laissait les enfants jouer dans la cour, on partait en vélo avec des copains, on revenait. Maman nous disait vous devez être là avant que la nuit tombe, mais personne faisait attention où on était si on était en vélo avec des copains.
Oui, ça c'était à l'île de Ré. Oui, c'était.
Oui, mais les gens vivaient comme ça aux États-Unis, c'est pareil. Tu prenais ton vélo, tu étais dans ces résidences, ces lieux de résidence où chacun allait en vélo.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de danger à l'extérieur. Le monde de l'extérieur, le monde de la rue, etc., était un endroit où il n'y avait rien qui pouvait vous arriver parce que il y a aucune raison, quoi.
Une fois que tu avais appris les signaux de la route et que tu faisais pas l'idiot...
Que tu traversais au feu, etc., il n'y avait aucun problème. Donc vraiment, si tu as raison, c'était un monde qui était paisible, sans...
Et c'est drôle, parce que je ne sais pas si tu te souviens de cette campagne d'information aux États-Unis qui avait été faite, je crois, sous Reagan ou un peu après, qui était « It's 10 o'clock, do you know where your children are ?» C'est-à-dire, il est 10 heures du soir, est-ce que vous savez où sont vos enfants ? Enfin, à notre époque, j'espère que tu sais où sont vos... Mais on était obligés de dire aux gens... Il est 10 heures du soir, est-ce que vous savez où sont vos enfants? Parce que
ils commençaient à sortir.
Non, mais parce que sinon, les gens ne se posaient pas la question. C'était vraiment... Et puis bon, on était évidemment dans l'époque où tout le monde fumait à l'intérieur. Etc. Il y avait cette nonchalance.
Ça a été un grand truc. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 80, je me souviens, quand je prenais l'avion sur des lignes du style de SAS ou d'Air France ou des trucs comme ça, de Le Concorde, les gens fumaient. C'est-à-dire, dans l'avion, il y avait une partie de l'avion qui était réservée aux fumeurs, et puis dans le Concorde, il vous amenait, je l'ai pris 2 ou 3 fois, c'était vachement bien, et il vous amenait des cigares. Ouais. Et donc, on fumait le cigare dans le Concorde, donc on sentait quand même,
Avec une ventilation qui, à mon avis, je sais pas comment, moi je l'ai vécu, ça aussi, on fumait dans les cinémas,
fumait dans les... puait dans les taxis, dans les bus.
Dans les taxis, dans les théâtres, dans les trains.
L'Eurostar, il y avait un wagon spécial fumeur, tu rentrais dedans, tu tombais comme une mouche. Ah, ça puait.
Tous les trains, on fumait, tous les trains avaient des wagons fumeurs. Ouais. En Angleterre,
donc ça, c'est la fin du tabac, ça a été quand même un marqueur.
Ah bah, c'est 2000. C'est 2000, c'est quand j'étais enceinte de ma première. Et j'étais contente parce que quand tu es enceinte, avoir toute cette fumée tout le temps, c'est en... Et puis surtout, moi, je partageais un bureau qui était la grandeur de studio avec une autre avocate qui fumait 2 paquets par jour. Et du jour où on a commencé à travailler ensemble, j'étais allée voir l'esthéticienne que j'allais voir. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais vous avez commencé à fumer ?» C'est-à-dire, elle le voyait sur ma peau.
Quelle horreur.
Et j'avais mes vêtements, j'étais obligée de les donner chez le teinturier.
C'est-à-dire, il y a eu quelques marqueurs comme ça, la ceinture pour les voitures, et arrêter de fumer pour ne pas embêter les autres. Où d'un seul coup, la puissance publique, le pouvoir, a commencé à essayer de modifier la façon dont les gens vivaient dans leur espace privé. Et il y a des tas de gens qui ont gueulé comme des putois à ce moment-là. Mais en quoi ça les regarde? Foutez-nous bien la paix, etc. Et il y a ce suivi avec l'alcool. Donc il y a eu, ça devait être des années 87-88 à peu près, jusqu'à l'an 2000, en effet, une espèce de pression sociale très forte qui a commencé à s'exercer sur ce qu'on faisait autrefois sans même y penser.
Alors, dans cette génération X, on se marie plus tardivement que jamais dans l'histoire, et c'est là où les femmes commencent à se marier à partir de 30 ans, dans les statistiques. Alors, c'est aussi le temps où le temps commence à devenir de plus en plus long entre le moment où tu perds ta virginité pour une femme et le moment où tu te maries. À ton époque, ou pour les boomers, en général, il se passait 1 an à 2 ans entre la perte de virginité et le mariage. Pour ma génération, c'est de 7 à 10 ans entre la perte de virginité et le mariage.
Et souvent, dans ma génération à moi, on épousait...
La première, qui avait dit oui.
Celle qui avait dit oui. Le but, c'était d'en faire une femme honorable à nouveau. Quoi. C'était ça, le...
Et oui, le changement, c'est... Bon, en gros, les boomers ont commencé leur relation sexuelle à l'université, la génération X au lycée et parfois au collège.
Il n'y en a pas au jardin d'enfants ? Non, mais c'est avec ce qu'on essaie de leur faire, les pauvres gamins, ils vont être obligés d'y aller. Hein.
Oui. Mais on est la première génération à coucher aussi tôt, c'est-à-dire qu'en cinquième, quatrième, tu commences à avoir des gens qui vont avoir
Est-ce
des...
Est-ce qu'il veut dire que c'est devenu la norme pour une femme, une jeune femme, d'avoir de multiples relations sexuelles, alors qu'autrefois, c'était pas vraiment la norme. Bah, il pouvait y avoir des dames qui se tenaient pas très bien, mais enfin, c'était plus tard dans la vie. Donc, cette espèce de libération sexuelle de la femme, ça a dû se passer, en effet, dans 10 ou 15 ans après.
Génération X. Alors, sinon, c'est une génération qui se qualifie, donc la mienne, par une certaine apathie politique. Et un certain cynisme vis-à-vis du pouvoir dont le point, le pinacle a sûrement été, en tout cas aux États-Unis, l'affaire Monica Lewinsky. Là, il y a une espèce de dégoût pour la chose publique en disant, mais alors vous êtes vraiment tous insortables, on peut pas vous faire confiance, vous jurez sur la Bible, et c'est l'inverse.
Et c'est pas monté,
et c'est pas remonté, et c'est pas monté en estime. C'est pas monté depuis, non. Ils se sont pas rachetés.
Vous savez, aux États-Unis, ils font une espèce de classement des professions
les plus détestées.
Les plus détestées. Alors,
il y a journaliste en premier?
Oui, alors aux États-Unis, il y a avocat, qui est quand même pas bien vu, journaliste, prostituée et politique.
Il y a une différence entre journaliste et prostituée?
Oui, non, ça peut arriver. Il y en a qui, de nos jours, à l'autre fois, j'ai connu des journalistes qui étaient de bonne qualité, c'était autre chose, ça, mais. Il s'est aussi passé quelque chose dans le journalisme, il s'est passé aussi quelque chose dans la façon dont les gens conçoivent leur façon de penser. C'est-à-dire que le journaliste, aujourd'hui, ne cherche plus à...
Informer,
à dire ce
qu'il... Ou à créer un
système d'information. Il s'est transformé en quelqu'un qui doit dire ce qu'il faut penser. Et ça s'est passé aussi... Ça s'est passé dans les 10 ou 15 dernières années. Je ne sais pas quelle génération c'est, mais ça, c'est nouveau. Et ça va être très mauvais parce que tous les enfants qui ont été élevés dans cette truc avec des professeurs qui disent ce qu'il faut penser, c'est le contraire de l'enseignement. C'est, moi, par exemple, j'étais avec un historien très connu en France, là, il y a deux jours, docteur d'État, etc., qui est très brillant. Et il me disait que dans sa thèse, il avait expliqué que... Katyn, vous savez, c'était le massacre des officiers polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait été pas fait par les Allemands, mais par les Russes. Ce qui, à l'époque, était... il a dû retirer cette phrase de sa thèse. C'est-à-dire que l'université française, dans son ensemble, refusait de considérer la possibilité que Katyn, ce massacre des officiers polonais, ait été fait par les Russes. Et c'est quand même extraordinaire, parce que lui, il commençait à avoir les preuves, etc. Donc, c'est comme quand ton frère avait, quand il était en quatrième, il y avait le professeur qui avait dit, les communistes se sont toujours opposés au nazisme et au fascisme. Et
avant Stalingrad, moyen.
Mais ton frère avait levé la main et en disant, et le pacte Ribbentrop-Molotov, c'est-à-dire de paix, etc. Et la professeure, qui était une bonne socialiste communiste, l'a viré. Elle a dit, allez,
Va voir le proviseur, oui.
Va voir le proviseur. Pour avoir dit la vérité. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années après la chute du mur de Berlin. Il est devenu normal de mentir en sachant qu'on mentait si c'était pour la bonne cause.
Oui, pour le camp du bien.
Pour le camp du bien. Et ça, ça a été aussi, je ne sais pas quelle est cette génération, mais ça, c'est tout à fait stupéfiant, ça.
Alors, arrive la génération qu'on appelle les millennials, qui va de 1980 à 1994. Donc là, c'est Edouard. Et alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est pratiquement la génération la plus attendue de toute l'histoire. C'est né de parents boomers avec la contraception. Donc, dans cette génération-là, tu as peu d'enfants non désirés. C'est des enfants qui sont planifiés. Donc, on les attendait. On en a moins. Et alors, la légende veut qu'ils soient les assassins de tout, c'est-à-dire les assassins du logos, les assassins de l'éthos, c'est-à-dire après où les millénials passent,
il n'y a rien,
c'est Attila. Et le principal trait de cette génération aussi est une surconfiance en soi. Comme ils ont été choyés, on leur a expliqué que c'était des petits génies en culotte courte dès le plus jeune âge. Une chose qu'on observe dans cette génération sociologiquement, c'est le déclin des pronoms collectifs. Quand ils écrivent, ça n'est jamais le « nous », « nous allons », c'est « je », « je » et « tu ». Mm-hmm. On s'individualise, on a la position centrale et il n'y a plus du tout de recours au collectif pour une action, pour une pensée ou pour un pays. Donc on est vraiment le je. C'est moi au centre de tout. Et si on leur donne des questionnaires, avec la question « est-ce que vous pensez par exemple plus intelligent que la moyenne ?», on est à 68% qui pensent qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, alors que la génération d'avant était à 47% de dire qu'ils étaient plus intelligents. Donc il y a une surestime, alors qu'ils vont avoir les mêmes résultats au bac. Donc ça n'est pas basé sur une réalité. Donc ils ont une surévaluation d'eux-mêmes, avec un ego un peu trop dimensionné. Et d'ailleurs, on commence à rentrer aussi dans le poids de la chirurgie esthétique dans cette génération. C'est le début des Kardashians en 2007. Et c'est le début aussi de « je me fais à mon image » avec « on commence les injections », on commence
aussi… Est-ce que c'est aussi le début à ce moment-là de « je change ma personnalité, je change ma sexualité, je suis… »
Alors ça, c'est un peu la génération qui va arriver après, mais bien évidemment, ça arrive ici parce qu'on commence à s'en donner les moyens. Et le narcissisme est roi. C'est-à-dire « je suis ma propre personne, je suis mon cul, mon corps est un temple », et on rentre effectivement dans cette volonté de se modeler, s'auto-modeler, au dépens d'une insertion dans un groupe, puisque le moi devient prioritaire sur tout.
Parce que ce qui avait été très fort quand j'avais été adolescent, c'était le phénomène des bandes. On se retrouvait, on avait 16, 18 ans, je sais pas quoi, et on était toujours ensemble, et on faisait des bêtises ensemble, on allait se promener, il y avait donc les bandes de garçons, dans lesquelles on mettait quelques filles, mais ça commençait. Mais c'était le phénomène
des bandes. Et alors, les bandes, c'est fini, et alors, ça peut être vu comme un positif ou un négatif, mais c'est que c'est un groupe qui est complètement décentralisé, il n'y a plus de chef, et donc, on arrive dans des réalisations concrètes qui sont très, par exemple, dans, tu sais, le truc à Wall Street, là, ils avaient fait Occupy Wall Street.
Occupy Wall Street, oui.
Si tu regardes Occupy Wall Street, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de leader. Tout le monde est un leader, personne n'est un leader. Donc ça peut être...
C'est ce qu'on a vu aussi pendant les révoltes à San Francisco et à Seattle, c'est-à-dire qu'ils créent une espèce de république autonome. Mais au bout de 5 minutes, ça marchait plus parce que personne ne savait qui allait faire l'ordre dans la République autonome. Voilà.
Donc, bon, alors, l'autre chose aussi, c'est qu'ils sont la plupart du temps mieux éduqués que les générations d'avant.
Ils ont fait plus d'études. Ils ont resté plus en classe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mieux éduqués.
Et alors, il y a évidemment dans cette génération une baisse des naissances.
Ah bah oui.
Aussi. Et on commence à rentrer, par rapport à ma génération, donc la génération X, chez les millénials, dans une baisse de la sexualité.
Oui, et ça c'est nouveau ça aussi.
C'est nouveau, ça, c'est arrivé, et on commence à avoir le développement aussi de personnes qui revendiquent une asexualité, qu'on va appeler les incels, et qui revendiquent aussi, qui se moquent de ce qu'on va appeler aux États-Unis les Chad et les Stacys, c'est-à-dire les Chad qui sont ceux qui ont toutes les filles et les Stacys qui sont qui ont plein de partenaires. Tu as aussi bien chez les hommes que chez les femmes le rejet de ces modèles en disant écoutez, nous, on ne peut pas avoir ces standards-là. Et puis, cette espèce de sexualité qui est forgée sur la pornographie, qui est forgée sur une surconsommation, ça ne nous intéresse pas. On préfère rester en dehors. On trouve ça nul. Voilà. Donc, c'est.
Oui, ça rejoint ce qu'on avait dit sur les garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ou 6 millions de garçons aux États-Unis qui sont sortis du jeu, qui disent non, ça ne nous intéresse pas, qui sont quelque part dans les montagnes rocheuses là-bas. Et qui ont disparu des statistiques, on ne sait pas où ils sont.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les réseaux sociaux ont créé une espèce de ce qu'on pouvait voir en classe sociale, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec la classe de beau, avec une possible surconsommation, et puis, puisque tout est fondé sur le physique et que tu n'as plus aucun charme, tu n'as plus aucune... Voilà. En fait, on se retrouve avec...
Il y a les beaux qui s'occupent entre eux et les autres qui disent « Personne ne t'intéresse à moi, je vais aller là-bas ».
Voilà, et... Alors que autrefois, à mon époque, tu avais la majorité des filles qui allaient avoir en moyenne 2 à 8 partenaires. Mmh. Là, on va avoir le même pourcentage de 10% de filles qui vont en avoir 40. Donc, on est typiquement sur une loi de Pareto avec des courbes des deux côtés en surconsommation. Donc, quand on dit la sexualité des... Non, c'est en fait le même groupe qui a une sexualité débridée et le reste qui touche rien du tout.
Ouf, il devrait installer des monastères comme ça. C'est ce qu'on a fait dans le temps, ça marche très bien.
C'est aussi une génération, les millénials, qui est beaucoup moins religieuse. Et en termes de vote aux USA, où ça a été...
Ils votent pas ?
quand ils votent soit à gauche, donc Liberals, ou soit libertariens. Oui. Dans une vision un peu anarchiste, vous nous gonflez tous, allez, vous m'emmerdez. Et là, on arrive sur pratiquement la dernière génération, vraiment, même s'il y en a d'autres qui sont nommées, qui est la génération Z. Alors, c'est les 95, nés en 1995-2012, donc c'était petite fille.
Ah, c'est pour mon Héloïse.
Voilà. Alors, eux sont les arbitres du goût.
Ah, c'est
ça. La génération Z, donc celle d'avant, n'utilisait pas... cette génération, pardon, la génération de mes enfants, ils n'utiliseraient pas le mot « classe », le mot statut social, le mot nation, le mot religion ou le mot spiritualité. Ils utilisent des termes comme stressant, identité de genre, liberté, vérité, honnêteté, fake, cancel, ghost. Et ils parlent aussi beaucoup de santé mentale. Alors pour cette génération, la génération Z, la santé mentale, en parler, en tout cas le revendiquer, c'est...
C'est-à-dire la façon dont tu es tranquillement posé dans la vie ?
Non, c'est vraiment la santé mentale, ça va parler des problèmes de breakdown, on va voir pourquoi.
De dépression, etc., oui.
Alors c'est aussi une génération qui est complètement à l'aise avec la notion de fluidité de genre, ils sont nés avec, donc... ils sont complètement... Alors qu'il y avait apparemment 1% de personnes qui s'identifiaient comme trans ou non-binaires chez les boomers, dans la génération Z, c'est environ 2 millions d'Américains, soit la ville de Phoenix, qui est la cinquième plus grande ville aux États-Unis, qui s'identifient donc 2 millions d'Américains aujourd'hui.
Ben attends, c'est une fausse façon de dire les statistiques, parce que les Américains sont 365 millions. Donc s'il y avait 1%, ça devrait faire 365 millions. Là, il n'y en a que 2 millions. On est dans les mêmes pourcentages.
Ah bon ?
Ben, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il y a 365 millions d'Américains et qu'il y en a un... Ah oui, mais ça veut dire 1% de cette génération.
Non, moi je te dis que c'était 1% des boomers. Dans la génération Z, c'est 2 millions d'Américains.
Oui, donc c'est plus. Je retire ce que j'ai dit. Oui, c'est plus ce que j'ai dit. Donc ça veut dire qu'ils accèdent... Mais c'est là où j'ai un problème. Ça veut dire qu'ils vivent dans un monde irréel, alors. Parce que... Ah, c'est vrai qu'on a été fait homme ou fait femme, quoi. Et Dieu écrit.
Ah bah, si tu veux, c'est des modifications générationnelles et c'est ce avec quoi vit cette génération Z, en tout cas. Et on connaît l'évolution et comment.
C'est-à-dire qu'ils veulent pas se casser la nénette si un type leur dit je suis une fille, ils disent bon, ça me fait plaisir.
Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais alors d'une force assez royale.
Non, mais est-ce que. Oui, bah oui.
Mais ils sont très vraiment les questions de genre, de sexualité.
C'est votre problème, c'est pas le mien.
Ah mais alors, c'est vraiment pas. Mm-hmm. Et alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on est encore une fois dans la récession du sexe, encore moins que les générations X et encore moins que les millennials. 3 hommes sur 10 n'ont pas eu de rapport l'an dernier, des hommes entre 18 et 25 ans. Et c'est 2 fois plus qui n'ont pas eu de rapport que chez les millennials. Et même chiffre chez les femmes, 1 sur 4 n'a pas eu de rapport sur 1 an. Des femmes entre 18 et 25 ans.
C'est beaucoup.
Donc c'est un... Bah oui, parce que t'es dans ton prime, tu devrais dire toutes tes pulsions sont... Et tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire, au niveau contraception. Donc c'est vraiment un choix, c'est vraiment... ouais, ça me gonfle en fait. Ou j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps. Et aussi autre chose, c'est que beaucoup disent « la pression est trop grande ». Les femmes vont dire « moi j'ai pas envie de vivre avec cette pression d'esthétique irréalisable qu'on m'envoie, qu'il faut être comme ci, comme ça, le nez comme ci, la peau comme ça, pas de cellulite, pas de truc, pas machin ». Elles ont pas envie d'être jugées. Et les garçons, eux, sont envoyés à des standards de pornographie vis-à-vis de la sexualité qui fait d'eux bah, des mauvais amants parce qu'ils ont aucune idée de rien et se posent pas la question que c'est le cerveau le plus grand organe sexuel. Donc si tu veux, ils s'imaginent des trucs pas possibles, donc les filles forcément quand elles sont en contact de ça se disent bah, c'est pas très intéressant, c'est un type qui me met les jambes dans tous les sens et qui change de position toutes les 10 minutes, franchement
pas...
je préfère aller à la gym, quoi. Tu vois, c'est pas...
Si ça devient la gymnastique, c'est pas drôle.
Voilà. Et alors,
comment on explique ce passage d'une génération à l'autre ? C'est des événements qui arrivent dans l'économie, dans la technologie, qui font que les gens sont plus pareils ?
En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que les sociologues regardent les générations et voient vers quoi elles s'agrègent.
Oui.
Et il y a des façons de parler, des façons de... les référentiels, justement, le référentiel, par exemple, sur Star Wars. Il y a une génération qui, tout à coup, va dire Star Wars, c'est quoi ce film, ce vieux film, c'est un truc de mes parents, je regarde pas ça, moi. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire, mais non, ça c'est, oui, c'est mon truc, ou ça va être L'île aux enfants, ça va être justement Dorothée. Et il y a un moment ou la génération d'après dit ah ben non c'est pas moi je me référence pas par rapport à ça, c'est pas ma façon de regarder le monde. Et donc là le clivage s'opère entre les deux. Parfois plus net que d'autres. Tu peux avoir la sensation aussi de ne pas appartenir à cette génération, pourtant tu en fais partie.
Oui.
Parce que bon, bien sûr, c'est des études de masse en sociologie.
Oui, bien sûr, mais on voit en effet quels sont les trucs auxquels les gens se réfèrent, les histoires
qu'ils
racontent.
Alors, tu vois, par exemple, dans cette génération-là, ils ont aussi ce sentiment de devoir grandir, de vouloir grandir doucement, qu'avait la génération d'Edouard d'avant aussi.
Oui.
Ils veulent se dire, oula, dans les études, on va prendre le temps, on peut prendre une année sabbatique, on peut se dire...
Ce que j'ai remarqué dans la génération d'Edouard, là, c'est... Ils n'ont plus du tout la même notion du travail. C'est-à-dire que moi, bon, c'est...
Avant, on voulait faire une carrière.
Avant, on voulait faire une carrière. Et donc, il fallait te faire embaucher par une grande banque, etc. Il fallait avoir une situation. C'est ce qu'on disait. Il fallait avoir une situation. Tu ne te mariais pas tant que
tu
n'avais pas de situation.
Et en tant que femme, tu n'épousais pas un homme qui n'avait pas une situation.
Voilà, c'était... Et donc ça, c'était tout à fait spécial. Tandis que là, je les vois, tous les gens autour de ton frère à New York, là, ils sont marrants parce que...
Ils travaillent une année, puis après...
Ils travaillent 3 mois, puis ils s'arrêtent un peu, et puis je demande à Edouard, alors celui-là, il fait quoi? Oh, bah, il est un petit peu...
Il fait un peu un projet.
Il écrit un livre d'un côté, puis de l'autre, il est en train de...
Il est barman, enfin bon.
Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... Ils ont une... J'avais été un jour au Laos, et il y avait un Français qui avait un restaurant... là-bas, et je lui disais comment c'est d'avoir un restaurant Laos, mais il m'a dit c'est très intéressant, mais pour avoir les 10 serveurs dont il avait besoin, il fallait qu'il en commande 30, parce qu'il savait jamais qui allait venir. Le type, il avait suffisamment d'argent pour la semaine qui venait, ou il avait une cuisine qu'il devait aller voir, ou j'en sais rien, et il venait pas. Donc, et je vois apparaître ça dans cette génération, c'est-à-dire qu'ils bossent quand ils en ont besoin. Enfin, quand ils en ont besoin pour payer leur appartement, je sais. Puis quand ils considèrent qu'ils ont assez de côté, ils cessent de bosser. Et donc, il y a un rapport au travail qui est très curieux, qui ne doit pas faciliter la vie des employeurs, d'ailleurs.
Non. D'ailleurs, les employeurs ont très peur des générations X et des millennials, et ainsi de suite. Enfin. Et alors, c'est la première génération aussi où on voit arriver une sorte de morale collective, où ils se dressent tous ensemble en disant « Vous ne pouvez pas dire cela ».
Ah alors, oui, ça c'est nouveau ça.
Alors c'est très nouveau. Alors on se lève et on dit oh là là, tu peux pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est alors il y a vraiment ce sentiment de morale collective. De non, ça c'est une atrocité. C'est pas possible.
Mais,
il y a des choses qu'on ne peut plus dire.
Par exemple, je me suis fait engueuler par tes frères et sœurs aux États-Unis là, parce que je disais comme on disait dans ma génération les Noirs. Tu sais, il paraît que il faut pas dire les Noirs.
Non, tu dois dire les Afro-Américains.
Les Afro-Américains, bon. Et mais les Noirs, c'est très.
D'ailleurs, des gens dans la vidéo t'ont repris aussi.
Oui.
Mais donc voilà, c'est.
Donc il y a des mots qu'on peut plus dire, quoi.
Non, tu peux plus
c'est,
dire.
Mais c'est. Alors on peut pas dire que je suis blanc non plus.
Non, tu dois dire caucasien.
Oui. Et le type qui est moitié caucasien, moitié noir, qu'est-ce qu'il dit?
Ça. Moitié noir, moitié afro-américain.
Mais si t'es un africain d'Afrique.
Et ben t'es africain?
Ah oui, t'es plus afro-américain,
non,
t'es juste africain.
Non, tu es africain, ou tu dis ton pays, je suis sénégalais, je suis camerounais. Et puis de toute façon,
bon.
Les gens vont te dire, ça n'a aucune importance que tu donnes la couleur.
Non,
sauf
non.
Si tu fais une étude génétique.
Non, c'est vrai, ça me rappelle quand tu avais fait ta soirée de fin d'année au lycée français à Londres. Il y avait un grand diable de l'air qui mesurait 2 mètres de haut, qui était africain, allez. Et je pensais que c'était le fils d'un diplomate, parce que au lycée français à Londres, il y avait plein de diplomates. Donc, alors je lui dis, d'où vous venez? Vous êtes né.
Il s'appelait Serge.
Il s'appelait Serge. Il m'a dit à Lille.
Oui.
Ah oui, j'ai dit. Ah bon,
Il était de Lille.
Donc si vous voulez. Parfois on se trompe quoi.
Ouais. Alors c'est aussi cette génération, une génération qui a des gros problèmes psychologiques. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure,
ouais.
Qui sont intéressés, ils posent des questions, il faut se sentir bien mentalement. Il y a une énorme vague dans cette génération, en tout cas, qui le revendique. Alors, est-ce que la génération d'avant l'avait aussi, mais n'en parlait pas? Ou est-ce que cela en parle plus parce que c'est toléré? Énorme vague d'anxiété, énorme phase de dépression, énorme phase de solitude. Ils se sentent seuls, ils se sentent vulnérables. Il y a, en 2012, en tout cas, une hausse incroyable des adolescents non heureux. En 2021, 30% des jeunes filles et 12% des jeunes teens ont été décelés en dépression. Le taux de suicide des adolescents aux USA entre 2007 et 2019 a connu une hausse spectaculaire, avec une hausse des filles de 10 à 14 ans qui a triplé entre 10 et 14 ans. Je pense que ça, c'est la pression des réseaux sociaux.
Et puis, c'est le fait de
et deux fois plus de filles se suicident en 2019 que 12 ans avant, en 2007. Pourquoi ? Tu as deux fois plus de suicides chez les jeunes.
C'est très curieux parce
filles.
Que justement, les hommes se suicidaient, les femmes faisaient des tentatives de suicide, mais se rataient. Donc c'était un coup.
Oui, puis souvent, les femmes, c'était dans des cadres amoureux ou des choses comme ça. Là, c'est des adolescentes, entre 10 et 14 ans.
Oui, c'est monstrueux. Donc ça veut dire que...
Pourquoi ces petites filles qui se suicident deux fois plus en 2019 qu'en 2007 ? Quelle est la brutalité ? Quelle est l'anxiété de ce monde qui fait... Ou alors,
Je crois que ça vient d'une chose qui est assez simple pour moi, c'est que on leur donne pas de but dans l'enseignement de la société autre qu'eux-mêmes.
Alors, attends, il y a une autre information qui est importante, c'est que les adolescents aujourd'hui passent trois fois moins de temps qu'il y a 10 ans avec autrui, avec leur père.
Voilà.
Autrefois, encore une fois, tu allais avec ton vélo, avec des potes, tu faisais des rondes, tu étais avec des copains, tu parlais. Aujourd'hui, tu as trois fois moins d'interactions sociales réelles. C'est-à-dire, tu parles peut-être par les réseaux sociaux, mais en réalité, tu es tout seul sur ton canapé, tu es tout seul dans ta chambre, tu es tout seul.
C'est tout à fait vrai. Il n'y a plus d'interaction avec les autres.
Tu as 152 heures par an en moins d'interactions sociales avec tes pères. Avant, tu traînais après le lycée avec des potes, machin. Maintenant, tout le monde est là, sur ses réseaux. Tu ne traînes plus avec tes potes, tu ne parles plus avec autrui. Et parmi les chiffres importants, justement, à mon avis, de l'anxiété généralisée, il y a aussi le fait qu'on ne se parle plus vraiment.
Tout à fait. Moi, je suis persuadé que les gens souffrent énormément de solitude. Parce que, il y a quand même... Je vais dire encore.
Parce que quelquefois, tu peux arriver dans un groupe, t'asseoir, t'es pas super bien, puis les autres font les cons autour de toi, et au fur et à mesure, ta morosité se lève.
Oui, mais ce que je vois très bien, c'est que quand, moi, de temps en temps, je viens en vélo au bureau. Hein. Je viens en vélo au bureau, oui, c'est ça. Et je suis sidéré. En vélo, vous regardez la rue, vous voyez ce qui se passe. Eh bien. Ils ont tous des oreilles sur des trucs sur la tête, où ils regardent un téléphone, où ils parlent dans un téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés du monde de la rue dans laquelle ils marchent. Et je me dis, mais c'est bizarre, parce que c'est sympa la rue, on y voit des trucs.
Alors, mes filles se moquent toujours de moi, parce que dans la rue, je suis toujours arrêtée, donc elles m'appellent 118-218, parce qu'on me demande, mais pourquoi les gens m'arrêtent ?
Parce que t'as pas de trucs.
J'ai rien dans les oreilles et je déteste parler au téléphone. Donc, effectivement, si tu cherches une personne qui peut potentiellement te donner une information, je suis la bonne personne. En général, je le sais. En plus, on rigole toujours avec ça parce que je suis une énorme anxieuse. Donc, quel que soit le pays, la ville, je regarde les cartes et je les apprends par cœur pour savoir où je suis toujours.
Oui.
Et donc, quand on me demande une information, en général, je l'ai parce que j'ai appris le plan. Voilà.
Et donc, cette espèce de technologie dont tu parlais au début, c'est quand même un machin qui peut amener à un isolement assez curieux. C'est une des conséquences, c'est que...
Alors aussi autre chose, toujours les réseaux sociaux, toujours les téléphones, toujours la technologie, ils dorment moins.
Ah oui, ça c'est mauvais.
Ils dorment 7 heures.
C'est pas assez.
C'est pas du tout assez. Moi, personnellement, je trouve que le sommeil, on n'a rien fait de mieux. Moi, le lit, mais je comprends pas qu'on passe pas plus de temps à pioncer. C'est juste formidable. Quand je me mets en lit le soir... Mais
le bonheur.
En plus, c'est gratuit, mais c'est formidable. Franchement, pioncer, c'est fou.
Oui,
et donc, chez les jeunes, ils sont aussi terriblement pessimistes, bien évidemment, c'est ce qu'on vient de voir, quand tu es anxieux, voilà. Et ce que tu peux voir comme projection...
Ils sont pessimistes parce que ce qu'ils lisent sur leur téléphone, etc., c'est terriblement...
Et puis, il y a une violence sur les réseaux sociaux. Parce que les gens sous couvert d'anonymat te balancent des trucs qu'ils n'oseraient jamais faire si tu les voyais dans la vraie vie. Et donc, il y a une violence, il y a un jugement, c'est horrible. Enfin,
il y a un lynchage qui se passe.
Donc, les filles, on leur dit, il faut que vous mettiez des photos de vous en maillot. Elles mettent des photos d'elles en maillot. Elles se prennent des déversoirs de haine, se font traiter. Bon, pour un qui dit, ah, tu es magnifique, machin. Il y en a 10 qui vont lui dire, ah, t'as l'air d'une pute, manana. Bon. Et voilà, et elles se prennent ces déversoirs de haine, et donc elles sont prises entre deux feux, avec l'idée aussi de « Ah, j'ai les seins qui n'ont pas poussé, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça », c'est horrible.
Horrible.
C'est, honnêtement, j'aurais pas aimé vivre maintenant, moi. Enfin bon. Et donc, ils sont très pessimistes, et ce que ça envoie comme message à la société aussi, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que si tu te retrouves avec des jeunes qui doivent construire la société de demain, qui sont anxieux, dépressifs et suicidaires. Donc tu peux te dire...
Ils ne sont pas tous comme ça, mais...
Non, mais ils ne sont pas tous comme ça, évidemment. C'est,
mais c'est pénible.
Alors, ils sont actifs politiquement et ils votent, cette génération.
Oui.
Alors, juste pour dire, les polars alpha qui vont être les 2013-2023,
oui.
Juste pour en parler comme ça, c'est des enfants qui ont vécu le Covid, les écrans, la distance. Et ce qu'on remarque déjà dans les statistiques, les enfants sont gros, trop gros. Surpoids déjà.
Moi, j'étais gros avant le Covid. Hein.
Oui.
Je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent, j'étais déjà bien en point avant le Covid. Donc.
Alors, reprenons. Quel va être le futur? Quelles vont être les tendances lourdes de toutes ces générations qu'on met ensemble? Qu'est-ce qui est apparu? Travailler depuis chez soi.
Oui.
Ce qui veut dire immobilier de bureau. Ce qui veut dire aussi que les gens potentiellement vont essayer de réinvestir les campagnes ou d'autres lieux en se disant, bah, après tout, si je dois travailler à distance, je vais peut-être me mettre dans le Périgord.
Il faut qu'il y ait un TGV.
Il faut qu'il y ait un TGV.
Bon. Il faut qu'il y ait un TGV à 30 km.
Bah, tu peux te mettre à Tours, tu peux te mettre à Orléans.
Orléans, t'as une heure de Paris.
Voilà. C'est très important pour ces générations, les nouvelles, d'avoir du safe speech, donc et l'accès à la parole. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est très important pour cette génération.
Parce que le fait qu'ils aient droit à la parole, ça veut dire qu'ils nous empêchent de parler?
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils considèrent que tu dois pouvoir parler de tout, mais avec leurs termes. Donc, il y a des façons de dire que tu n'as pas le droit de faire. Tu ne vas pas pouvoir dire les blancs, tu ne vas pas pouvoir dire les noirs. Voilà, donc il faut presque apprendre le vocabulaire et la façon de s'exprimer. Et attention, quelquefois, encore une fois, j'en parlais la semaine dernière, par exemple, si Onfray va dans une émission et qu'il parle de race, alors là, ça leur tombe dessus. Même si ça peut être pour en parler génétiquement et que personne ne dit que ça peut être bien ou mal. Mais il y a des choses qui ne sont plus tolérées, que tu ne peux plus dire avec les générations.
Eh ben, je les emmerde.
Oui, bien sûr.
Personne ne pourra parler d'une façon dont je ne veux pas parler.
Donc les générations Z sont différentes des millénials. Ils ont besoin d'être loués, acclamés, absolument sur tout. Alors, dès qu'ils font un truc, quand tu as un patron d'entreprise et que tu gères des générations Z, tu leur dire c'est formidable. Ah, vraiment, la façon dont vous avez repoussé la chaise, là, j'avais jamais vu personne repousser une chaise comme ça. Vous avez apporté des bouteilles de Vittel comme personne avant vous. Enfin, bon, voilà, ça doit vraiment être le constant nani, quoi. Alors, tout est politique pour eux. Alors, c'est bizarre parce que les générations d'avant, ma génération, rien n'était politique, on s'en foutait. Maintenant, même vendre de la soupe à la tomate, tu vends du roi commune une soupe, c'est une affaire politique, quoi. C'est vraiment, tout est un message politique où tout doit être d'une certaine façon politisé ou dépolitisé. Parce que si tu ne le politises pas ou tu ne le fais pas bien comme il faut, ça pourrait être aussi un message politique.
Je vais avoir des problèmes avec eux.
Truc hyper important, on l'a vu, la santé mentale. Et autre chose aussi d'assez important, c'est l'aplatissement des secteurs d'autorité dans le travail. C'est-à-dire aujourd'hui...
Ah, mais ça, c'est les sociétés qui sont comme ça. C'est pas
oui, mais c'est-à-dire qu'autrefois, tu arrivais, tu disais bonjour patron, tu disais
bonjour...
Non,
mais c'était des sociétés verticales, maintenant c'est des sociétés horizontales. Donc voilà. Ils s'habituent à ça.
C'est-à-dire que tu vois
un
type...
C'est pas leur caractéristique, c'est la caractéristique.
Non, mais ça, c'est quand même si tu arrives aujourd'hui dans ces open space, dans les trucs, quelqu'un va arriver en disant salut José, tu sais pas à qui s'adresse. Ça peut être le PDG, comme ça peut être le portier. Il n'y a pas du tout... c'est complètement, effectivement, vertical. Donc voilà, et ce qu'on peut dire en tout cas qui résume tout ça, c'est que la courbe de natalité est en berne.
Complètement.
Il y a moins d'esprit d'entreprise, et qui dit moins d'esprit d'entreprise, il y a aussi moins d'innovation. Donc tout ce qui est schumpeterien comme avancée, en tout cas dans... En 2030, les boomers ont 65 ans ou plus. En 2034, il y aura plus d'adultes que d'enfants dans nos pays.
Bon, ça, c'est pas nouveau, mais...
Ouais, bah, alors, l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, il va se péter la gueule.
Et tout le marché aussi des choses pour enfants va décliner.
Bien sûr.
Même si... Alors, on achète encore des voitures, mais pour combien de temps?
Ben, surtout si on continue à en faire. Parce qu'à partir de 2035, là, on n'a plus le droit d'avoir des voitures.
Oui, en plus.
On peut que des voitures électriques. Et... Ce qu'on dit jamais, c'est que si t'as un accident entre deux voitures électriques, tout le monde crame.
Ah, oh, arrête, parle pas d'horreur.
Mais c'est toujours comme ça, parce que ça, les batteries s'enflamment. Donc personne ne te parle des accidents des voitures électriques, mais ça déclenche des incendies monstrueux. C'est une imbécilité, tout le monde. Il va y avoir un nombre de gars cramés, ça va être effrayant.
Ne me parle pas de ça, parce que j'ai une saine hantise des feux électriques, parce que...
Tu peux pas les arrêter.
Tu peux pas les arrêter.
Il faut partir dans l'autre, il faut courir.
Et les pompiers...
Ça peut pas les arrêter.
Voilà, parce que j'ai eu le problème dans mon immeuble d'un type qui a tiré des fils depuis chez lui jusque dans les garages. J'ai dû courir après le syndic, parce que j'en avais des frayeurs la nuit en me disant, mais si on a un feu électrique depuis les garages, ou entre parenthèses, c'est infiltré de flotte et ainsi de suite, je me disais, mais on crame tous comme des gigots. Bref.
Donc voilà, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a des... Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est qu'il y a des générations qui apparaissent et qu'elles sont différentes les unes des autres, et c'est probablement au rythme des inventions et de l'utilisation de ces inventions par le public. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels on n'a pas vraiment réfléchi, parce que...
Il est certain, si tu veux, que les générations Z, les millennials, sont terriblement définies par Internet. C'est-à-dire, il y a eu la première génération d'Internet, et aujourd'hui, toute cette génération est très à l'aise dans les réseaux sociaux, ça les définit aussi, et ça les aide comme ça les dessert, parce que je suis persuadée que la santé mentale
Ouais,
est le...
ben, tu rencontres pas des vrais gens.
Voilà.
Bon, ben écoutez.
Voilà, donc on vous a fait un petit tour. Non, mais je pensais que c'était important
C'était
de...
important de classifier les choses. Et encore, c'est pas tellement, à mon avis, la date de naissance, c'est la date d'arrivée de l'invention qui doit faire la différence.
Et puis, tu peux avoir aussi, de toute façon, c'est pas à 2 ans, 3 ans près, mais c'est la façon dont tu t'intègres dans un groupe et comment tu es intégré dans la dynamique de ton groupe, tu vois.
Tout à fait.
Moi, je suis tout à fait de la génération Star Wars et je m'y reconnais complètement. J'ai toutes les références.
Oui.
Voilà. Et toi, effectivement, tu n'es pas un boomer, tu es juste avant. Tu es avant la génération mai 68, toi.
Un vieux silencieux.
D'ailleurs, quand les profs de votre université à Toulouse avaient été suffisamment intelligents pour vous donner les sujets de fac,
oui, ça c'est vieux, ça. Oui, oui.
Pour que vous n'ayez pas pété des gradins et que vous réussissiez à passer bien vos examens.
On était des obéissants.
Bah oui, mais c'est... Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à faire ce sujet. N'hésitez pas à nous poser des questions et puis... À nous proposer des sujets. La semaine prochaine, on retournera sûrement sur un sujet économique, histoire de vous déprimer encore un petit peu.
Non, il y a des tas de choses très intéressantes qui se passent. Il vaut mieux la fin dans l'horreur que l'horreur sans fin. Donc, on est en train d'arriver à la fin dans l'horreur et le plus tôt on y arrivera, le mieux ça vaudra.
Voilà. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci.